Avant d'entrer dans le vif du thème de ce matin, le retour de Jésus, je ne résiste pas à l'envie de vous raconter un petit témoignage, puisque la dernière fois que j'ai pris la parole ici, à ce pupitre, j'avais commenté le chapitre 3 du livre des Actes, la guérison du paralytique devant le temple, qui était suivi par la prédication, une prédication de Pierre et des apôtres. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même incroyable, il y a eu la guérison, mais après, en discutant avec deux, trois personnes après le culte, je ne sais plus qui exactement, mais m'avait dit, mais finalement, la guérison, ce n'est pas le plus important. Et le plus important, c'est bien sûr d'avoir, de rencontrer Jésus, de comprendre l'évangile, de comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Et effectivement, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose de tout à fait spécial. Quand j'étais en congé, j'étais toute la semaine là avec mes parents, parce que tous les deux ans, en fait, l'été, on passe une semaine de vacances tous ensemble en famille, dans les Ardennes. Je reçois un mail de quelqu'un qui me dit, d'abord c'était un message d'ailleurs au téléphone, et puis ensuite j'ai dit, ouais, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc il m'a écrit un mail et puis il m'a dit, écoutez, il m'est arrivé quelque chose le 9 août dernier. Je sortais de la pharmacie avec mon épouse qui a un problème au niveau de la cheville et du genou. Et quelqu'un est venu près de s'approcher de nous et puis a proposé de prier pour la santé de ma femme. Il a imposé ses mains sur les endroits qui faisaient mal et ensuite il a prié et les douleurs ont disparu instantanément. Alors je croyais revivre le livre des Actes, chapitre 3. Et puis cette personne est partie en disant simplement ben, « remerciez Jésus ». Ah, je me suis dit « c'est bien, il a écouté ma prédication, il a glorifié Jésus ». Et puis après, bon, j'avais la description un peu physique de cet homme. Et puis je me suis dit quand même, il m'a dit le teint foncé, les cheveux longs, etc., il ressemble à quelqu'un qui a fréquenté l'église baptiste pendant plusieurs années et qui justement avait de temps en temps un petit peu cette habitude de faire des sorties dans la rue pour voilà, prier pour les gens. Et alors je lui ai envoyé un petit SMS, parce que maintenant il habite en Savoie, alors je me suis dit c'est peut-être quand même pas lui, mais peut-être qu'il est revenu en Alsace pour les vacances et tout ça. Et puis effectivement, c'était le cas. Il était revenu en Alsace pour les vacances et puis voilà, il a imposé les mains à cette dame qui a été guérie. Mais du coup, suite à ça, ce monsieur, en fait, c'est le monsieur qui était très touché de ça, parce qu'il a dit, dans son mail, il me disait, mais moi, je suis athée et je suis bouleversé par ce don que Jésus a fait à mon épouse. Et ça va tellement remué que je pense qu'il a cherché des choses sur Internet, guérison, miracle, etc. Et puis, il a dit, j'ai compris que pour remercier Jésus, il fallait que je lui donne ma vie. Et je voudrais même me faire baptiser. Je dis, va pas trop vite. Non, ça, je n'ai pas dit encore. J'ai dit, on va se rencontrer. Du coup, on a rendez-vous mardi à 15h. Donc, c'est en même temps sujet de prière que je vous laisse, que l'Esprit de Dieu m'inspire aussi, parce que pour l'instant, il y a eu cet événement, il y a eu la compréhension de remercier Jésus. Et puis, ben, j'espère que je vais pouvoir, animé par le même esprit que les apôtres aussi, annoncer l'évangile et voilà, vous donner une bonne nouvelle la prochaine fois. Parce que j'ai effectivement... alors, je ne veux pas, en racontant cette histoire, je ne veux pas mettre forcément en avant tous ceux qui sortent dans la rue pour essayer de guérir tout le monde. Mais ceci dit, ils ont le mérite, ces personnes, d'aller vers les autres. Et c'est vrai, je regrette un petit peu que ce frère n'ait pas annoncé aussi l'évangile suite à ce miracle, ce que je vais faire du coup après, c'est un travail aussi d'équipe, l'Église. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai eu l'habitude aussi pendant quelques temps, pendant quelques mois aussi, de faire de l'évangélisation de rue aussi à Strasbourg. Et c'est vrai qu'il y avait des fois des groupes qui mettaient beaucoup l'accent sur la guérison physique. Et d'ailleurs, j'avais discuté une fois avec un frère, et il me disait, parce qu'on avait un peu témoigné à la gare de Strasbourg, et puis il m'avait dit, ah, tu verras, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire, les chrétiens qui aujourd'hui dans la société ne sont pas tellement appréciés, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire et tu verras, on parlera d'eux dans les médias, etc. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? C'est vrai que des fois, on est friand de choses un petit peu extraordinaires, mais il y en a une qui surpasse tout, qui surpasse bien la guérison physique, qui surpasse même peut-être s'il y avait un événement extraordinaire qui honorerait l'Église aujourd'hui, on ne dirait pas forcément non, mais il faudrait s'en méfier pour que, ne pas nous enorgueillir, mais rendre la gloire à Dieu. Et il y a une chose par contre que nous croyons, si nous sommes enfants de Dieu, et qui est absolument plus incroyable que tout ça, c'est que Jésus va revenir. Et finalement, aucun autre miracle ne nous impressionne devant cette certitude qu'un jour, Jésus va revenir. Et c'est le plus important, mettons l'accent là-dessus. Parce qu'après sa mort et sa résurrection, dont nous nous souvenons en prenant la scène, Jésus est monté au ciel, il est monté auprès de son Père. Dans les cieux, il est assis sur le trône à la droite du Père, mais pas pour l'éternité. Il va revenir. L'histoire d'ailleurs du salut pourrait presque s'arrêter au moment où Jésus sur la croix dit que tout est accompli. Mais elle ne s'arrête pas là. L'Esprit est envoyé, l'Église peut recevoir cet Esprit. Et la Bible nous enseigne que ce n'est pas tout non plus. Qu'au bout de toute cette histoire qui peut-être nous paraît longue maintenant, au bout de plus de 2000 ans d'histoire de l'Église, disons, pas plus de 2000 ans, à peu près 2000 ans, ça ne s'arrête pas là non plus. Les morts, un jour, vont ressusciter et Jésus va revenir. Il a dit lui-même qu'il reviendrait bientôt. Certains d'ailleurs en ont déduit que Jésus était atteint de folie. Je ne sais pas si vous savez, mais Albert Schweitzer, qui était beaucoup de choses, médecin, musicien et puis aussi théologien, qui est parti en Afrique aussi pour faire de la mission, n'était pas très évangélique dans sa théologie, plutôt libéral. Et d'ailleurs sa thèse de théologie, il l'a eue en faisant, le thème de sa thèse, c'était l'évaluation psychiatrique de Jésus-Christ. Étant médecin, lui, et il s'est permis de poser le diagnostic, finalement, au bout de sa thèse, que Jésus était atteint de folie. Et un de ses arguments les plus forts était justement que Jésus avait dit qu'il reviendrait. Et pour lui, ce n'était pas possible, ce n'était pas pensable. D'autres ont pensé qu'il s'agissait aussi, lorsque Jésus a dit qu'il reviendrait, qu'il s'agissait de la Pentecôte, que Jésus reviendrait dans la personne de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais les textes bibliques sont nombreux à affirmer que le retour de Jésus sera visible et corporel. Et il y a un petit bout de phrase que nous connaissons tous dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 7, « Tout œil le verra ». Cela signifie que le retour de Jésus sera bien visible. Nous attendons sa venue qui est pour bientôt. Alors bientôt, que signifie ce mot? Ce mot signifie que c'est le prochain événement majeur de l'histoire du salut. Jésus revient bientôt. Laissez-moi vous citer une citation dont je ne connais pas l'auteur, puisqu'il était cité par quelqu'un qui n'a pas donné sa référence. Mais je vous le lis quand même. Une des plus précieuses vérités de la Bible est le retour de Jésus-Christ. Cette réalité remplit de joie le cœur du chrétien et lui donne la force et le courage de persévérer dans le combat qu'il doit mener jusqu'au bout. Elle l'élève au-dessus de ses peines, de ses craintes, de ses épreuves, au-dessus des ambitions et des convoitises de ce monde et le rend en toute chose plus que vainqueur. La véracité du retour de Jésus-Christ a toujours été une vivante et glorieuse espérance en des temps d'authentique réveil spirituel dans l'Église. Mais dès que cette flamme a commencé à baisser dans les cœurs, ce message s'est hélas estompé, et estompé pour certains, et pour d'autres, il a même complètement disparu. Lisons la parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'au chapitre 5, le verset 3, et je vous en fais la lecture dans la Bible, second 21. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. L'expression « retour de Jésus » n'est pas utilisée telle qu'elle dans le Nouveau Testament. C'est plutôt le mot « venu », en grec c'est d'ailleurs le mot « parousia », qui est généralement utilisé. Ce mot d'ailleurs, dans certaines traductions plutôt anciennes, et même pas traduit, c'est écrit « parousie ». Il s'agit d'un mot qui est utilisé dans le langage courant de l'époque pour parler de la venue de quelqu'un, et c'est ce mot qui est utilisé dans notre texte au verset 15. Mais nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une simple venue, pas à cause du mot lui-même, mais à cause du contexte. Le cri de commandement, la voix de l'archange, le son de la trompette nous montrent bien qu'il s'agit pas d'une venue ordinaire, mais d'un retour en gloire de Jésus-Christ. Cet événement, imaginez le son d'une trompette, mais imaginez le son de la trompette de Dieu, il va s'entendre. Cet événement n'aura rien de discret. La voix de l'archange, le cri de commandement, cet événement n'aura rien d'un événement discret ou secret. Quand Jésus reviendra, tout œil le verra. Le Seigneur lui-même descendra du ciel, les morts ressusciteront. Tout cela ne pourra pas passer inaperçu. Un autre mot qui est utilisé dans notre texte au verset 17, c'est le mot « rencontre ». En grec, c'est « apanthesis », le mot « rencontre ». Ce mot est assez rare, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament. On n'en a que deux autres emplois, dont un dans la parabole des 10 vierges, lorsqu'une de ces dernières dit « Venez, allons à sa rencontre », en parlant de l'époux qui vient. Et ce terme a également un sens plus technique, c'est aussi ce terme qu'on utilisait pour dire quand une personnalité de l'époque arrivait dans un village ou dans une ville, la population allait à sa rencontre. C'était aussi aller à la rencontre d'une personnalité comme un roi, comme un empereur qui venait dans une ville à l'époque. Lorsque quelqu'un d'ailleurs d'important arrive dans un lieu donné, beaucoup de personnes viennent à sa rencontre, et ça c'est pas que de l'époque, c'est encore aujourd'hui. J'ai vu quelques images aux informations d'Emmanuel Macron qui était à Bormes-les-Mimosas. Et puis il y avait une foule autour de lui, et ce matin à la radio j'entendais « ouais, j'ai pu lui serrer la main et même lui faire la bise ». Mais bon, c'était quand même plus dur qu'avec Chirac. Aujourd'hui encore, on peut voir cela avec les bains de foule, notamment des chanteurs connus, des sportifs de haut niveau, des hommes politiques. Eh bien, ce que notre texte nous dit, c'est que de la même façon, les chrétiens, les enfants de Dieu, accueilleront Jésus lors de sa venue. l'Église ira à la rencontre de Jésus dans les airs. L'Église, on pourrait dire, escortera Jésus qui descend sur la terre, tout comme on faisait honneur aux personnalités importantes de l'époque et d'aujourd'hui encore. L'Église, on pourrait dire aussi, déroulera le tapis rouge. Alors, pas parce que Jésus a remporté le festival de Cannes, mais il est néanmoins le plus grand vainqueur du meilleur des scénarios jamais pensés, l'histoire et particulièrement l'histoire du salut qu'il a écrit avec son sang. Et cette histoire, comme beaucoup d'histoires, se finira bien. Cette histoire se finira par un mariage. C'est la fiancée, l'Église, qui rencontre son futur époux, et les noces, qui sont alors après décrites plus tôt dans le livre de l'Apocalypse, qui suivront. Et ça, c'est la chose extraordinaire qui surpasse tout ce qu'on pourrait attendre. C'est ce jour merveilleux et que nous attendons avec certitude. Ce jour arrive. Peut-être on peut déjà voir quelques lumières de ce jour déjà arrivées dans notre quotidien aujourd'hui, mais ce grand jour est encore à venir. Notre cœur dit « Maranatha, viens Seigneur », parce que nous attendons le jour du salut. Hébreux 9, 28 nous dit que Jésus apparaîtra une seconde fois, non plus pour éliminer les péchés, mais pour accorder le salut à ceux qui attendent sa venue. Alors peut-être une question qu'on pourrait se poser, c'est si nous allons à la rencontre de Jésus dans les airs, comme dit le texte, est-ce que nous nous envolerons ? Ça n'est pas impossible, puisque tout est possible à Dieu. Mais de nombreux commentateurs nous font remarquer que les airs dans ce texte ne désignent pas forcément ce qu'on entend aujourd'hui par ce mot. Les airs, dans la littérature grecque, avant Jésus-Christ, ne désigne pas l'atmosphère, là où volent les avions, mais plutôt désigne la surface de la terre, l'air présent à la surface de la terre, l'espace dans lequel nous évoluons. Nous vivons dans les airs, d'après le vocabulaire des philosophes grecs de l'époque de Jésus. On pourrait croire qu'on est plutôt une créature terrestre. Oui, on a les pieds sur terre, mais on vit quand même dans le milieu ambiant dans lequel on est, dans l'air. Bon, sauf quand on était dans le ventre de notre maman. Là, on était des aquatiques, milieu aquatique. Et puis, on n'est pas non plus terrestre comme la taupe ou le ver de terre. Ce n'est pas notre milieu de prédilection. Un des rares autres emplois de ce mot « air » dans le Nouveau Testament est dans une expression aussi assez énigmatique, « le prince de la puissance de l'air », une expression qui désigne le diable. Et là, il est évident, disons, moi je trouve assez évident, que le texte ne signifie pas que le diable est le maître du vent ou qu'il agirait de façon particulière dans l'atmosphère. Les airs désignent soit la vie terrestre dans laquelle le diable a un certain pouvoir, soit un lieu théologique qui est distinct du ciel, qui est le lieu de la présence directe de Dieu. Nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs, veut dire que nous rejoindrons Jésus là où il se trouve pour l'acclamer en tant que vainqueur. Rappelez-vous le cri aussi de commandement en tant que vainqueur, et notamment en tant que vainqueur sur les puissances diaboliques. D'autres mots encore sont utilisés tout au long du Nouveau Testament pour nous parler du retour de Jésus, le mot épiphanie ou apparition, qui est présent surtout dans les épîtres de Timothée et de Tite, le mot, bien sûr, révélation, apocalypse. Les expressions comme le jour du Seigneur ou le jour de Jésus-Christ sont relativement fréquentes également, et le vocabulaire pour nous parler du retour de Jésus est finalement assez riche. Si on ajoute à tous ces mots, toutes ces expressions, toutes les allusions au retour de Jésus dans la Bible, nous avons plusieurs dizaines de passages qui en parlent. C'est une des doctrines de notre foi les plus fondamentales, et c'est un point d'ailleurs de quasiment toutes les confessions de foi. Jésus revient. Alors bien sûr, l'ordre des événements de la fin des temps, faisait débat surtout il y a quelques dizaines d'années. Mais personne ne peut honnêtement remettre en cause le fait que la Bible nous enseigne le retour de Jésus. D'ailleurs, peut-être que s'il y a eu tellement de débats à propos de la chronologie sur la fin des temps, c'est qu'il y avait une certitude qu'il y aurait une fin des temps et un retour de Jésus. Dans le texte que nous avons lu, la trompette divine retentira ainsi que la voix d'un archange au moment où celui qui est vainqueur reviendra sur terre. Alors de quelle façon tout cela se passera précisément, nous ne pouvons le dire. Le langage est tiré de l'Ancien Testament et peut être employé ici comme l'image d'un chef qui revient victorieux après une bataille, les cris de victoire, ainsi que le cor ou la trompette, le chauffard, qui est sonné pour manifester à tous la victoire sur l'ennemi. Alors vous allez peut-être me dire, mais la victoire sur l'ennemi, c'était déjà à la croix. Et c'est juste. Il y a ce temps entre la croix, où Jésus a dit « tout est accompli », et son retour, on pourrait dire, c'était déjà... Un premier retour, c'était déjà la résurrection, en quelque sorte, mais un retour encore final, puisque nous connaissons encore aujourd'hui la souffrance et la maladie et le péché. On prend des fois cette image que lorsque il y a eu le débarquement des Américains sur les côtes en Normandie en juin 1944, ça y est, la victoire était acquise à ce moment-là. Et pourtant, il a fallu attendre plusieurs semaines encore avant que Paris soit libéré et avant que toutes les autres villes soient aussi libres de l'occupation. Le Sauveur est entré dans le monde pour le libérer aussi. Mais la libération définitive sera le retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Tout comme la libération de Paris n'a eu lieu que quelques semaines après le débarquement. Et ces quelques semaines sont pour nous quasiment 2000 ans aujourd'hui. Nous vivons dans ce temps où le Sauveur est déjà venu, la victoire est déjà une certitude, tout est accompli, mais nous attendons encore que cette victoire soit totalement manifestée sur la terre. Et d'ailleurs, nous prions aussi que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Cela sous-entend que la volonté de Dieu n'est pas encore complètement accomplie sur la terre. Et ce jour-là, la mort sera vaincue, pas simplement pour Jésus-Christ, mais pour tous. Et c'est pourquoi les morts ressusciteront. Ce passage a été écrit par Paul pour enseigner sur le retour de Jésus, mais aussi pour rassurer justement tous les croyants qui s'inquiétaient au sujet de ceux qui étaient décédés. Paul leur rappelle que la résurrection fait partie de l'espérance chrétienne. Notre espérance n'est pas de devenir, après notre mort, le moment où notre âme et notre corps ne font plus un. Notre espérance n'est pas seulement de devenir, après notre mort, des purs esprits désincarnés, mais un jour de ressusciter, comme Jésus-Christ est ressuscité, pour vivre dans un monde nouveau et une création totalement renouvelée. Après la résurrection des morts, nous serons enlevés dans les nuées. Alors, que signifie ce verbe « enlever » Alors là, je vais donner ma position, je sais que ce n'est pas celle que d'autres peut-être auraient. Le verbe « enlever » a plusieurs sens. Il est utilisé pour dire, par exemple, que un aimant enlève la limaille de fer, dans le sens qu'il attire la limaille de fer. Le même verbe signifie aussi kidnapper ou rapter. Alors ce sens n'est absolument pas possible dans ce texte en raison justement du contexte. On disait aussi qu'un fiancé enlève sa fiancée pour dire qu'il l'emmène avec lui. Et en fait, on s'aperçoit quand on regarde un peu les différents sens de ce mot, qu'ils ont tous un point commun, une idée commune. Tous les sens de ce mot contiennent une idée commune, celle d'être arraché à un état initial pour devenir attaché ou dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, de gré ou de force. Et étant donné que ce verbe est utilisé de façon très proche avec l'expression « aller à la rencontre », qui est aussi utilisée dans un contexte de mariage, dans la parabole des dix vierges, comme je le disais précédemment, je préfère penser ici qu'il s'agit du sens que le fiancé vient enlever sa fiancée, vient chercher. La fiancée est cherchée par son futur époux. L'église sera au complet. Tous les rachetés seront réunis, l'épouse sera prête pour les noces. Et cet enlèvement aura lieu en nuée, littéralement. Et là encore, on peut y voir une allusion à l'Ancien Testament. Lorsqu'il est question du jour de l'Éternel, les prophètes font mention de la nuée ou des nuées. Joël 2, verset 2 dit qu'il y aura des ténèbres, de l'obscurité, des nuées et du brouillard, en parlant du jour de l'Éternel. Ézéchiel 30, verset 3, dit très clairement que le jour de l'Éternel sera un jour de nuées. Et Ésaïe 60, verset 4 et 8, dit « Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées ?» comme des colombes vers leur colombier. Nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur qui est le Sauveur. Et pour cela, il faudra être arraché, enlevé du reste du monde. Il nous faudra avoir revêtu un corps incorruptible pour passer de l'existence mortelle à l'immortalité. Et là, je pourrais renvoyer vers un autre chapitre de la Bible, celui de 1 Corinthiens 15. L'enlèvement de l'Église est, en tout cas selon moi, n'est pas plutôt une disparition subite et discrète des chrétiens de la surface de la terre, comme certains le pensent. J'avais un ami qui, dans sa voiture d'ailleurs, avait un petit autocollant côté siège passager, avec écrit dessus « Attention, le chauffeur de cette voiture peut disparaître à tout instant ». Ça faisait un peu peur peut-être pour ceux qui étaient assis à cette place. Très probablement, l'enlèvement de l'Église ne sera pas une disparition subite et discrète de l'ensemble des chrétiens de la surface de la terre. Au contraire, tous les rachetés se rassemblent. La fiancée est enlevée pour aller à la rencontre de son futur époux qui vient. Elle doit revêtir un nouvel habit pour cela. Elle quitte son corps mortel pour revêtir un corps immortel, éternel, incorruptible. Une robe de mariée pour les noces qui suivront après. Et cette robe de mariée vaut bien plus d'ailleurs que celle de tous les grands couturiers, puisque la robe même la plus chère du monde, elle va vous couvrir le corps, l'extérieur du corps. Alors que cette robe, cet habit, ce nouveau corps que Dieu nous donne, va revêtir notre intérieur, notre être intérieur, de paix, de joie, de douceur, de toute la plénitude de l'Esprit-Saint. À ce moment-là, il n'est même pas pensable que la fiancée soit ailleurs qu'avec son fiancé. Alors quand, la grande question, c'est aussi quand. Quand tout cela se passera-t-il? Je n'en sais rien et j'en suis fier. Je pense juste que le retour de Jésus sera soudain et rapide. Un texte dit aussi en un clin d'œil, suggère une idée de rapidité. Autre expression, comme la femme est aussi saisie des douleurs de l'accouchement, ça peut aussi venir rapidement, soudainement. le texte suggère un effet de surprise, même s'il y aura des signes avant-coureurs. L'effet de surprise, c'est aussi comme un voleur dans la nuit. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de signes avant-coureurs. Le professeur de Nouveau Testament, Jacques Buchold, estime que rien n'empêche que le Seigneur Jésus revienne demain. Pas demain, lundi 19 août, hein. Il a dit ça déjà il y a quelque temps. Pour lui, tous les signes avant-coureurs de l'Écriture sont déjà là. Il ne voit rien de contraignant dans l'Écriture qui doivent encore arriver. Certains attendent une guerre mondiale, mais n'y en a-t-il pas déjà eu ? L'abomination n'est-elle pas à son comble dans nombre de domaines ? Notre texte laisse penser que la violence ne sera pas forcément visible non plus, puisque les hommes diront paix et sécurité. Et M. Buchold, professeur de Nouveau Testament, disait que pour lui, l'interruption volontaire de grossesse pourrait être considérée comme une guerre silencieuse, non visible, avec des millions de fœtus tués chaque année, 220 000 en France, 600 par jour, une trentaine depuis le début de notre culte. La violence est là, mais elle est cachée, et les hommes peuvent dire paix et sécurité. Les hommes diront paix et sécurité, alors que des millions de victimes pourront être assassinées. N'est-ce pas comme une guerre peut-être aux yeux de Dieu ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je crois bien que des faits de notre société, bien des faits de notre société, pourraient être des signes de la fin des temps. Méfions-nous, ceci dit, d'interpréter trop rapidement, car tous ceux qui, avant nous, ont annoncé le retour de Jésus, de leur vivant, sont maintenant morts. Ils se sont trompés. Et malheureusement, sur Internet, on trouve beaucoup de personnes qui annoncent le retour de Jésus. Une prophétie très bizarre, une fois que j'ai lu, c'était que le Messie était déjà né aujourd'hui et il était en France. Mais la personne ne savait pas elle-même qu'elle était le Messie, mais bon, ce prophète, lui, savait qu'il y avait une personne qui était le Messie. Méfions-nous de cela. Si nous allons sur Internet, nous voyons de nombreux mouvements sectaires encore annoncer la fin du monde. Et en Suisse, un prophète prétendait avoir reçu des révélations divines. Il prévoyait la fin du monde pour 2017. Et quelques-uns l'ont un petit peu suivi jusqu'au 1er janvier 2018. Après, certains ont dit « Ah, attendons quand même encore un petit peu ». Mais bon, l'année 2018 est passée. C'était donc un faux prophète. Soyons prudents quant à la fin des temps. Moi, j'ai dit une fois à mes enfants, mais si on dit que Jésus revient demain, alors on va se tromper plein de fois, mais un jour, ça finira par être juste. Si nos enfants continuent après nous, etc. Contentons-nous de ce que la parole de Dieu nous dit. Si quelqu'un vous dit « Le Messie est ici, il est dans le désert, il se cache à tel endroit », ne le croyez pas. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, versets 23, 26, 42. Par-dessus tout, souvenons-nous que nous n'attendons pas qu'un événement. Nous attendons une personne. Plus que le jugement dernier, nous attendons le juge qui va venir. Plus que le salut, nous attendons le sauveur qui va venir. C'est l'époux qui vient vers son épouse et son épouse vers son époux. Voilà ce qui importe. Amen.